La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle émission, nous baignons encore et toujours dans le milieu cinématographique du début du XXe siècle. Nous étions aux États-Unis et nous allons y revenir pour retrouver des productrices, réalisatrices de cinéma, scénaristes, monteuses, techniciennes, bref, tout un petit monde féminin qui se trouve derrière les caméras et non devant, dans l'ombre des studios. Alors la dernière fois, je vous ai fait faire la connaissance de Maud Adams, aussi à l'aise avec la technique que sur une scène de théâtre, puis les écrivaines scénaristes Gertrude Atherton, Anita Loos ou Frances Marion, puisqu'elles ont mis leur plume, leur sens de la scénographie au service du cinéma, sans compter la compositrice qui, entre autres musiques, a composé des musiques de films. Il s'agit de l'anglaise Grace Williams, dont nous avons pu écouter les œuvres. Et aujourd'hui, je vais continuer à vous présenter quelques-unes de ces femmes qui gravitent autour des caméras, même si parfois elles apparaissent devant. Alors, c'est une belle brochette de femmes encore qui se pressent pour que nous fassions leur connaissance. Alors, je dois dire que beaucoup sont nées avant 1900, elles sont américaines pour la plupart, mais aussi anglaises, ou allemande, et même japonaise, ce qui paraît insolite, mais vrai. Et pour chacune, les cursus sont bien marqués, à croire que ces dames étaient passionnées par le cinéma, par le 7e art, comme communément nous l'appelons aujourd'hui. Alors je vais vous les présenter, celles qui sont nées avant 1900, en respectant une certaine chronologie. D'ailleurs, en voici une nommée Dorothea Berthe, née en 1875. C'est une anglaise, elle fut actrice et scénariste, qui débuta à 20 ans une carrière de comédienne sur les scènes de théâtre. Alors, la jeune femme séduisit son public en jouant dans une adaptation du roman de Georges du Maurier intitulé Trilby, une intrigue plus ou moins sentimentale sur fond de manipulation. Et Dorothea interprétait une jeune fille que se disputaient deux messieurs. Bon, voilà globalement quel était le sujet pour ce film muet. À noter que Georges du Maurier, écrivain et illustrateur britannique, était le grand-père de Daphné du Maurier, elle-même écrivaine, l'une de mes écrivaines favorites adolescentes, ce qui ne date pas d'aujourd'hui, hélas. Alors, vous savez peut-être que Daphné du Maurier avait écrit ce roman intitulé « Rebecca », qui a été adapté au cinéma en 1940, pour mon plus grand bonheur, puisque c'est le maître incontesté du suspense, Alfred Hitchcock, qui fut le réalisateur. Et ce roman relate l'histoire d'une orpheline, pauvre, devenue dame de compagnie qu'un lord épouse pour l'emmener vivre dans sa grande maison, celle-ci encore hantée par le souvenir dérangeant d'une première épouse défunte, dont la beauté et l'éclat, même morte, continuent de rayonner sur les lieux, si bien qu'elle réussit à déstabiliser la seconde épouse en accentuant son sentiment d'illégitimité. Et le spectateur n'était pas loin de le penser, sauf que la vérité n'est pas toujours logée là où l'on croit qu'elle se trouve. Et à noter que ce film, inspiré par le roman d'une femme, c'est-à-dire Daphné du Maurier, fut réalisé à l'époque du cinéma parlé. D'ailleurs, nous allons écouter la musique de ce film, intitulé Rebecca, créée par un compositeur nommé Franz Waxman. Bon, d'accord, ce n'est pas une femme compositrice, c'est un homme, mais cette musique, en nous reliant au milieu cinématographique, nous permettra de nous mettre dans l'ambiance. Et laissons venir à nous, l'espace de deux petites minutes, la troublante Rebecca. Thank you. Après ce petit intermède suggestif, il est temps de retrouver maintenant Dorothea Bird, notre actrice scénariste, à une époque où le cinéma est encore muet. Alors remontons jusqu'en 1911, et le moment où elle tournera dans un film qui lui apportera du succès, film qui s'intitulait La princesse Clémentina, un film d'aventure historique qui, il me semble, compte l'histoire d'une princesse néerlandaise. Et c'est à partir de cette époque que Dorothea Bird fera ses premiers pas dans la mise en scène, notamment pour un film intitulé Motherhood, où elle traite de la maternité et où elle aborde la condition sociale des femmes. Et en effet, et c'est récurrent chez elle, son intérêt se portera tout au long de sa carrière cinématographique, qu'elle soit actrice ou scénariste, et même en dehors du cadre de ses activités, sur la condition féminine et surtout sur les femmes qui rencontrent difficultés et problèmes et qui peinent à assumer leur rôle de mère dans les conditions difficiles dans lesquelles elles se débattent, où règne la pauvreté, le manque d'hygiène, le manque d'éducation. Et bien évidemment, Dorothea Bird se préoccupera en priorité des bébés qui subissent par ricochet toutes les négligences qui découlent de ces situations difficiles. Alors maintenant que nous avons fait la connaissance avec cette scénariste anglaise qui, comme vous pouvez le constater, s'implique à éveiller les consciences sur la condition difficile des femmes en Angleterre, eh bien, nous allons revenir aux États-Unis, patrie où tant de femmes se sont investies pour faire vivre et développer le cinéma. Et c'est pour rencontrer Etigray Baker, qui elle est née en 1880. Elle est écrivaine, rédactrice de production, scénariste, monteuse. Alors encore une qui porte plusieurs casquettes, hein, comme la plupart de ces femmes d'ailleurs. Celle-ci commence à écrire des scénarios alors qu'elle est employée dans une bibliothèque publique et c'est là que l'idée lui vient de les vendre. Et tout en continuant ses activités professionnelles de secrétaire ou de bibliothécaire, puisqu'elle était diplômée, elle continuera d'écrire jusqu'à ce qu'elle soit employée en 1913 par une compagnie cinématographique, celle de Hobart Bosworth, où elle travaillera autant comme monteuse, c'est-à-dire celle qui assemble les plans, que comme écrivaine de scénarios de films qui restent toujours muets, bien évidemment, à cette époque, au tout début du XXe siècle. Alors, à cette période, elle traite surtout de films inspirés par la vie de l'aventurier écrivain Jack London, qu'elle mettra en lumière. Vous avez certainement dû lire de cet auteur ne serait-ce que L'appel de la Follerée ou Cro-Blanc. Et quant aux films qui sont inspirés par Jack London, ils s'intitulent l'un Gurning Daylight, Lumière du jour, et l'autre The Valley of the Moon, La Vallée de la Lune, réalisé plus ou moins autour de 1914. Et elle trace son chemin jusqu'à devenir cofondateur de la Photoplay Authors League, qui s'assimile en tant que précurseur à la Screenwriters Guild et en sera élue vice-présidente. Alors apparemment, il s'agit d'un genre de fédération, de syndicat, qui rassemble les écrivains de cinéma, les scénaristes et protège les droits d'auteur. Alors elle continuera d'évoluer en intégrant encore d'autres compagnies ou corporations cinématographiques, puisqu'en 1916, à 36 ans, elle rejoindra la Ford Film Corporation, qui deviendra la 20th Century Fox, un sigle qui nous est familier si nous nous intéressons au cinéma. Alors, comme toujours, elle participe au montage, au scénario. Bon, ce sera le cas pour bien des films, comme pour le premier film d'Hollywood intitulé « Une fille des dieux ». Nous la retrouverons souvent aux côtés du réalisateur John Ford pour des films intitulés comme par exemple « La Reine de la Mer » tourné en 1918 où elle est rédactrice, « Le Cheval de Fer » de 1924, un western où est retracé avec péripétie la construction d'une voie ferroviaire aux États-Unis Et pour la plupart de ses films, elle est monteuse, parfois scénariste. Enfin, quoi qu'il en soit, elle est à l'origine, avec ses scénarios, de plus d'une vingtaine de films. Alors, en 1938, Etty Gray Baker prendra du galon et sera promue directrice. Elle continuera d'écrire des livres. Bon, il est dit que sur la fin de son parcours de vie, elle écrira surtout des livres sur les chats, car à ce qu'il paraît, elle aimait particulièrement les chats. Bon, apparemment, il s'agirait surtout de contes. Alors, après la présentation de cette dame, eh bien, nous allons écouter un peu de musique pour rester dans l'ambiance. Et je vous propose celle du générique du film de John Ford, tourné en 1924. Alors, si je ne me trompe pas, vous allez écouter la musique d'un compositeur nommé Erno Rapp pour ce film intitulé Iron Horse en anglais, traduit en français par Cheval de fer, et qui va nous faire voyager dans les grandes plaines de l'ouest des États-Unis. Alors nous allons chercher la compagnie d'une autre de ces femmes qui se nomme Léa Baird. Elle est née aussi fin 19e siècle en 1883 et était actrice, productrice et scénariste. Et sa carrière cinématographique s'étend de 1911 à 1956. C'est donc une longue carrière, très exactement 45 ans au total. Alors elle était américaine d'origine allemande. Les études qu'elle entreprend en tant que secrétaire ne la prédisposent pas à se retrouver sur une scène de théâtre. Et pourtant, elle débute dans la vie comme actrice de théâtre en 1907, à 24 ans. et se fait remarquer par un producteur-réalisateur nommé William Brady, qui l'a fait jouer dans un film intitulé The Gentleman du Mississippi, où elle joue avec un acteur qui deviendra célèbre en son temps, nommé Douglas Fairbanks. Or, par la suite, elle continuera une carrière d'actrice, et c'est à partir de 1916 qu'elle sera dirigée par notre réalisatrice bien connue maintenant, nommée Lois Weber, que je vous ai présentée dans l'émission précédente. Et en même temps, elle poursuivra sa carrière de comédienne, elle écrira des scénarios et se lancera dans la production de films. Apparemment, elle écrivait ses propres scénarios pour ses interventions en tant qu'actrice. Et d'après ce que j'ai lu, bon, ce n'était pas toujours une réussite d'un point de vue général de combiner les deux, de la vie des cinéastes et du milieu. Mais apparemment, elle aurait réussi à orchestrer tout cela avec un certain succès. Alors elle aussi, comme Lois Weber, qui peut-être lui a servi de modèle, peut-être de référence, elle prend à cœur de porter à l'écran les problèmes que rencontrent les femmes dans leur quotidien. Et d'ailleurs, elle profitera d'une certaine célébrité pour s'immiscer, se rapprocher du pouvoir, du gouvernement, afin de sensibiliser les dirigeants à la cause des femmes et surtout de faire valoir la réforme du divorce. Et par la suite, elle délaissera la comédie pour, à partir de 1925, s'investir pleinement dans l'écriture de scénarios et dans la production. Alors parmi ces femmes, une autre personne nommée Ruth Baldwin, née en 1886, également réalisatrice, scénariste et monteuse, elle était l'épouse d'un acteur nommé Leo Pearson. Bon, sa formation initiale est celle d'une journaliste. Il semblerait qu'elle ait exercé dans ce sens en écrivant dans un journal. À ce qu'il paraît, elle était scénariste pour de nombreux films muets. Il est dit qu'elle aurait appris son travail avec un réalisateur scénariste nommé Lynn Reynolds. Et dès 1913, elle sera employée à l'Universal Manufacturing Company comme écrivaine de scénario. Et elle y sera aussi monteuse avant d'y devenir réalisatrice dès 1916. Alors, elle aurait aussi réalisé des films, notamment deux longs métrages, intitulés l'un A Wife on Trial et l'autre 49-17. Or, ce dernier est un western, le premier réalisé par une femme, à ce qu'il paraît. Elle y fait tourner son mari acteur. Quant aux critiques, elles sont mitigées, favorables pour les uns, défavorables pour les autres. En tout cas, elle était connue pour être une experte en matière de scénario, même si son passage semble assez discret, car je n'ai pas trouvé grand-chose en information sur elle. Enfin, voilà pour le cursus de cette personne, mais d'autres lui emboîteront le pas, comme à celles qui l'ont précédée. Alors c'est toujours un peu le même schéma, hein, quoique certaines sont plus engagées et s'affirment davantage. Et ma belle Normande, par exemple, est une Américaine née en 1892 qui fait son entrée comme actrice plutôt dans les films burlesques. Alors elle porte également plusieurs casquettes, celle de scénariste, de réalisatrice, de productrice, car en effet, toute jeune, elle s'intéressait déjà à ce qui se passait derrière la caméra, comme la direction d'acteur qu'elle découvre avec le réalisateur Max Sennett. Alors elle aurait co-dirigé des films avec lui, notamment dans lesquels tournera Charlie Chaplin. D'ailleurs, l'un de ses films où joue Chaplin s'intitule « Charlot et les saucisses », puisque c'est Mabel Normand qui aurait réalisé le film. Elle y aurait également joué comme actrice. Alors, je l'ai regardé sur YouTube, film qui dure un peu plus de 9 minutes. Bon, la musique est bien conforme à celle qui est généralement jouée au cinéma muet. Et d'ailleurs, à défaut d'image, je vais vous remettre un petit peu dans l'ambiance avec cette musique intitulée Black Bottom Stump d'un compositeur qui, je crois, se nomme Gerald Morton, si j'ai bien noté ce qu'il fallait. Alors, imaginez une scène où se déroule une course automobile devant un public avec une jeune dame qui vient vendre ce que je suppose être les fameuses saucisses. Bon, Charlot arrive, Kiriski, et c'est bientôt la pagaille, comme il se doit, entre les policiers, les spectateurs et spectatrices, chacun se tapant allègrement sur la figure. Mais écoutons cette musique qui rythme à merveille l'action qui se déroule non pas sous vos yeux, mais peut-être déjà dans votre imagination. Revenons à ma belle Normand qui intégrera une autre compagnie, la Goldwyn Picture Corporation. Ceci dit, sa filmographie en tant qu'actrice est très importante et comme réalisatrice, elle n'est pas négligeable non plus, ni même comme scénariste, surtout lorsque l'on sait qu'elle est décédée relativement jeune, à 38 ans, de la tuberculose. Alors, ce qui a ralenti aussi jusqu'à mettre un point final à sa carrière, c'est les scandales auxquels elle fut mêlée. Et en effet, elle fut impliquée en une première fois dans le meurtre d'un metteur en scène, nommé William Desmond Taylor, puis ensuite dans divers scandales, histoires plus ou moins troubles. Alors si je peux faire une réflexion sur une majorité de femmes que je présente, je constate que la plupart d'entre elles, nées fin 19e siècle, prennent à cœur le fait de porter à la connaissance d'un public les problématiques sociales, notamment concernant les populations fragiles ou défavorisées. En tout cas, je crois déceler chez certaines un désir d'ouvrir les consciences afin de provoquer des changements de mentalité, de transformer les comportements pour améliorer les conditions de vie. Et aussi, si possible, peser sur les décisions qui pourraient être prises par les autorités. Ce qui veut dire encore que l'état d'esprit dominant de ces femmes au sein du 7e art est plutôt militant, que ce soit en faveur du bien-être des enfants, des mères, le droit des femmes à être, à faire ce qui leur correspond, celui des populations pauvres à obtenir une valorisation de leurs conditions de vie, et même celui de personnes de couleur à compter dans la société. Et souvenez-vous à ce sujet de la Française Alice Guy Blacher, présentée précédemment, qui a tourné un film aux États-Unis avec uniquement des Noirs comme acteurs. Alors elle sort bien évidemment des clichés habituels véhiculés par la plupart des hommes qui eux exploitent le plus souvent les stéréotypes qui les arrangent et qui correspondent grosso modo l'une à l'épouse obéissante, dévouée et utile et l'autre à la beauté fatale, bien souvent sulfureuse qui elle fait rêver. Alors Hollywood fera d'ailleurs de cette dernière image une grande consommation de ces femmes belles et sexy pour alimenter les fantasmes masculins. Et d'ailleurs, la plupart ont endossé ce qui correspond à une image trop parfaite, confrontées de plus aux pressions que subissaient les acteurs en général dans ce milieu, finiront parfois leur vie, surtout avec les marques de l'âge qu'elles auront du mal à supporter, de façon dramatique. Alors l'émission se termine, nous allons remonter la prochaine fois encore le cours du temps pour bientôt arriver au cinéma parlant. Bon, j'en ai peu encore à vous présenter, hein, des américaines ou anglaises nées avant 1900. Vous vous rendez bien compte combien les femmes ont investi le 7e art au moment du muet et nous allons pouvoir suivre les prochaines émissions l'évolution des femmes au sein de l'industrie du cinéma, surtout au moment de passer au cinéma parlant. Pour ma part, eh bien, j'ose espérer que ces émissions sont instructives pour vous, mais aussi divertissantes, pourquoi pas, même si je reconnais qu'elles sont denses en information. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de La Voix des Arts et vous remercie de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.